marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
13h30 sur France Inter, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Monsieur Duvic.
La marche de l'histoire, quel est le programme aujourd'hui Monsieur Lebrun?
Les Saint-Simoniens, Monsieur Duvic, parce que c'est eux qui ont, vous le savez, porté le projet de canal de Suez. Et une exposition ouvre à
l'Institut du Monde Arabe.
Ce jour, sur l'épopée du canal de Suez, et puis ils ont eu un rôle tellement extraordinaire en matière d'invention de réseau. Enfin, ils réémergent dans la mémoire nationale après avoir été longtemps refoulés.
Ils n'étaient pas un peu fous.
Vous avez dit saint-simonisme ?
La classe industrielle doit occuper le premier rang parce qu'elle est la plus importante de toutes. Les industriels se constitueront première classe de la société. Les industriels les plus importants se chargeront gratuitement de diriger l'administration de la fortune publique. Allons, bourgeois et prolétaires, le travail nous a fait égaux. Ensemble, remuant la terre, montrons à tous l'homme nouveau. L'humanité sera notre famille et l'univers notre jardin. 1832.
7 ans auparavant, en 1825, un homme meurt à Paris. Il avait été comte de Saint-Simon et avait congédié ses titres. La richesse l'avait quitté, seuls quelques amis l'avaient accompagné dans ses dernières années. Mais il laissait une œuvre scientifique et politique d'une dimension inouïe, semée d'intuitions de génie. Je vais dire ce qui se fera, par qui cela se fera et comment cela se fera. Après 1825 et en tirant parti du microclimat de liberté né de la révolution de 1830, ses disciples, les Saint-Simoniens, vont labourer le chaos de ses livres, créer une école de pensée et même une église et faire se lever d'imprévisibles moissons. Si, à nos yeux, il y a une idée force qui émerge de leur groupe, passablement disparate, c'est la conviction que le monde nouveau sera traversé par la circulation. Les solides compteront moins que les fluides. Le monde sera maillé de réseaux matériels et immatériels. Michel Chevalier, penseur de premier plan de l'école saint-simonienne, a ainsi conçu, dès 1832, un système de la Méditerranée, Mare Nostrum bordé de golfes féconds, et appelé à être le laboratoire de l'association Orient-Occident. Dès 1834, le père Enfantin, qui dans l'église saint-simonienne fait figure de messie, s'installe pour sa part en Égypte. Le projet de canal de Suez lui doit beaucoup. En matière politique, les Saint-Simoniens ne croient plus aux pyramides hiérarchiques anciennes. La politique aura dorénavant pour fonction de rendre possible tous les genres de production, car c'est autour de la production que la société va se restructurer. On voit combien ce langage de la circulation et de la mobilité est actuel. On a entendu récemment Gérard Collomb dire qu'à Lyon, il n'a pas été socialiste, mais saint-simonien. Et Emmanuel Macron, candidat à l'Élysée, reconnaître une filiation. Mais n'oublie pas de te méfier, recommandait Michelet. Quand Saint-Simon voulait faire basculer le pouvoir vers la classe industrielle, il plaçait au cœur de celle-ci les travailleurs qui, faisant tout, n'avaient pourtant rien et en venaient à penser que leur travail était inutile. Le saint-simonisme, c'était bien davantage qu'un technocratisme à destination des entrepreneurs.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ainsi que le pense depuis longtemps Pierre Musso, bonjour.
Bonjour.
Compagnon depuis des décennies de Saint-Simon, qui est comme un ami pour vous. Avec trois compères, vous avez été un des éditeurs en 2012-2013 des 4 volumes des œuvres complètes de Saint-Simon. On va surtout parler des disciples aujourd'hui, mais quand même un mot pour résumer, si c'est possible, le caractère protéiforme de Saint-Simon.
Saint-Simon, il écrit entre 1802 et 1825, année de sa mort, et il est le fondateur des fondateurs, selon une formule que m'avait passée oralement Georges Balandier. Fondateur des fondateurs parce qu'il veut, c'est ses propres termes, inventer une nouvelle philosophie, un nouveau monde. Et fondateur des fondateurs parce que c'est la matrice de tous les grands courants, de toutes les idéologies du XIXe siècle, positivisme, socialisme, libéralisme, technocratisme, et bien sûr saint-simonisme. Le saint-simonisme, s'il existe, parce qu'il existe plutôt une multitude de saint-simoniens, c'est une des interprétations, non seulement théorique, mais dans l'action, de l'œuvre de Saint-Simon.
On ne grimpera qu'à une branche de l'arbre, celle des saint-simoniens. Donc c'est une école qui infuse, dès la mort du penseur, la révolution de 1830 va chauffer les feux. Ils ont d'emblée hein, une dimension amicale, une union de sensibilité, une communauté dans une maison de la rue Monsigny à Paris.
Oui, tout à fait. Mais d'abord, c'est un groupe qui s'associe autour d'un journal, Le Producteur, qui était déjà une idée de Saint-Simon et qui va être publié entre 1825 et 1826. Et là, il y a un certain nombre de textes fondateurs. Une des figures, à ce moment-là, c'est Enfantin, Barthélemy Prosper Enfantin, mais c'est aussi Olinde Rodrigue, qui était le dernier secrétaire de Saint-Simon. Et il va se passer progressivement une série de schismes, entre guillemets, c'est-à-dire de séparation entre tous ces leaders. Mais ils se regroupent effectivement en 25-26. Ils vont s'élargir, notamment dans le milieu des ingénieurs, en particulier à Polytechnique, en 28-29-30. Et dans ces années-là, ils vont à la fois créer une sorte d'école, mais surtout une doctrine, et c'est ce qu'on connaît en général du saint-simonisme, et quelquefois même de la pensée de Saint-Simon, c'est la doctrine saint-simonienne, qui est en fait le regroupement d'une trentaine de conférences qui ont été données en public à Paris. Et puis, en décembre 29, il y a la création d'une église saint-simonienne avec deux pères supérieurs, suprêmes, d'une part le père Enfantin et d'autre part Saint-Amand Bazard.
Après la révolution de 1830, ils vont prendre le contrôle d'un journal libéral important qui s'appelle Le Globe et dont ils feront le service gratuit à beaucoup de notabilités. Mais la rue Monsigny, c'est aussi un lieu où on produit beaucoup de brochures de propagande avec un tirage beaucoup plus important que celui du Globe, jusqu'à 10 000 exemplaires. Ils ont été combien, les saint-simoniens, dans l'hypothèse haute, chiffre de la police, dans l'hypothèse basse?
Alors, ça dépend quel courant on prend, mais je dirais quelques centaines. Ceux qui vont se retirer à Ménilmontant, on en parlera, ils sont une quarantaine avec le père Enfantin. Et autour de Polytechnique, où ils ont beaucoup, ils ont joué un très grand rôle, puisqu'il y a beaucoup d'ingénieurs, et ils sont une centaine.
Ils font de la propagande un peu partout dans le pays, par cercles concentriques, en voyant des missionnaires,
absolument,
par pair ou trio. Beaucoup d'ouvriers attendent d'eux, enfin ils attendent peut-être des secours matériels autant que des secours intellectuels. Et puis, ça c'est une modernité sur laquelle on insiste beaucoup du saint-simonisme, les femmes attendent beaucoup des saint-simoniens.
Alors oui, les femmes, et on peut dire que le féminisme est né en grande partie en France autour du mouvement saint-simonien. Et ce qui est marquant, c'est le fameux appel à la femme d'Enfantin qui entraîne le grand schisme de novembre 31 entre les saint-simoniens, entre les, notamment les deux pères,
Bazard
et Enfantin. Et qui, la femme, bien sûr, c'est l'union des deux sexes que célèbre Enfantin, mais c'est aussi l'union, selon ses termes, du corps et de l'esprit, de l'Orient et de l'Occident. Donc c'est une vision aussi symbolique du rôle de la femme dans la société.
Oui, mais matériellement, c'est aussi la possibilité revendiquée par Enfantin du divorce, du choix des femmes et de la publicité des mœurs. On va entendre au long de cette émission des échos que le saint-simonisme a laissé sur les ondes des radios. Alors, vous allez les trouver peut-être pittoresques, mais beaucoup de nos auditeurs vont être contents à cet instant précis, au sujet d'une femme saint-simonienne, d'entendre la voix de Claude Villers.
Tu n'es qu'une putain saint-simonienne. Madame Roland, directrice des postes de la bonne ville de Falaise, est prête à gifler sa fille en ce jour de printemps 1832. Rouge de fureur, elle répète en détachant bien les syllabes « Tu n'es qu'une putain saint-simonienne !» Blême, les lèvres tremblantes, les poings serrés, Pauline Roland se retient à grand-peine de bondir à la gorge de sa mère. Elle voudrait quitter Falaise et le Calvados, aller à Paris, vivre avec les saint-simoniens. Ah ! à ceux qui voudraient qu'elle courbe la tête de honte, elle affirme haut et fort qu'elle ne consentira jamais à épouser aucun homme dans une société où elle ne pourrait pas faire reconnaître son égalité parfaite avec celui auquel elle s'unirait, ou plutôt elle se vendrait. Fin de citation. Un jour, elle en est sûre, les hommes et les femmes vivront sur un pied d'égalité, sur un continent d'où seront exclus la misère, la violence, d'où sera banni tout pouvoir autoritaire.
Ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est que ce féminisme, vous avez employé le mot, il est comme aimanté par le caractère religieux du saint-simonisme. S'il n'y avait pas la religiosité autour du père enfantin, le chef du groupe, qui se prend de plus en plus pour un messie, qui a les cheveux qui ondulent au vent et une belle barbe, il n'y aurait pas autant de succès.
Oui, alors, effectivement, il est le père suprême. Il ne faut pas oublier qu'il y a les deux figures, c'est-à-dire la figure mystique du père enfantin, et puis la figure plus rationnelle, c'est leur terme, qui est celle de Bazar. Donc, ce sont les deux faces.
Oui, mais une fois que le schisme est fait, c'est Enfantin qui seul exerce l'autorité.
Mais il ne faut pas réduire le saint-simonisme ou le mouvement saint-simonien à cette figure symbolique d'Enfantin, qui se prend d'ailleurs pour l'incarnation même, non seulement du Messie, mais bien sûr la réincarnation de Saint-Simon lui-même. Il y a bien sûr une religion chez les saint-simoniens, d'ailleurs dans les brochures que vous évoquiez de la rue Monsigny, on parle de la religion saint-simonienne. Cette religion, elle vise essentiellement à unir le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Parce que chez Auguste Comte, comme chez Saint-Simon, Auguste Comte ayant été le secrétaire pendant 7 ans de Saint-Simon, il va rompre aussi avec les saint-simoniens, la séparation du pouvoir industriel, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel ne peut pas être modifiée. Or, les saint-simoniens vont fusionner les deux pouvoirs, donc le corps et l'esprit, l'homme et la femme, l'Orient et l'Occident, et surtout faire afficher comme dogme la science et comme culte l'industrie. Et c'est pour ça qu'ils vont passer de cette phase euphorique et scandaleuse, pour beaucoup, comme vous l'évoquiez dans la citation qu'on a entendue, scandaleuse, puisque Ménilmontant va être fermé par la police.
Mais il faut d'abord que ce soit ouvert, Pierre Musseau. Il faut qu'on raconte Ménilmontant d'abord. Alors, ça va très mal pour le groupe quand le gouvernement de la monarchie de Juillet peu à peu s'établit sur des bases un peu plus solides et que toute cette propagande sur les femmes inquiète ou fait rire. Et l'argent manque aussi, donc on se réfugie autour du père Enfantin, une quarantaine de personnes, avez-vous dit, sur une hauteur à Ménilmontant. Il y a encore un passage des saint-simoniens au 145 rue de Ménilmontant. Voici le récit qu'en fait le journaliste Louis Rébaud.
La caisse était vide, ou peu s'en fallait, et nous en arrivions au régime du haricot de mouton. Comme les autres, je pris l'habit. Le pantalon blanc, couleur de l'amour. Le gilet rouge, couleur du travail. La tunique bleu-violet, couleur de la foi. Enfantin régnait absolument. À table, il mangeait seul, respectueusement servi par ses disciples. Lorsqu'il apparaissait, nous entonnions le chant d'usage.
Salut, Père, salut! Salut et gloire à Dieu!
Le Christ, quittant les apôtres, leur dit « Veillez, ils ont dormi. Vous nous avez dit « Travaillez, nous voici, l'œuvre commence. »
Salut, Père, salut! Salut et gloire à Dieu!
Je fus chargé de l'entretien des chaussures de la communauté. Oui, monsieur. 40 paires de bottes à décrotter et encirager chaque matin. J'avais beau chercher, je ne voyais pas l'intérêt que mon coup de brosse pouvait avoir pour les générations futures. Ce n'était pas le plus terrible. Non, voyez-vous, juste passer là-dessus. Mais la nourriture...
Ah, vous mangez vraiment très mal.
Non, dites plutôt que nous ne mangions plus du tout. Hormis cependant le raisin qui abondait dans le jardin du phalanstère et qui offrait l'affligeante particularité de n'être pas mûr. L'affreux ravage des fruits verts.
Alors les livres et les chroniques de Rébaud ont inspiré, parce que là aussi il y a du pittoresque, la radio française, une fiction de 1972 signée par Michel Duplessis. Ménilmontant se manifeste au vu et au su de tous, et vous avez beau étudier tout ce qu'il y a de plus sérieux dans le saint-simonisme, c'est cette production d'images qui longtemps a imprimé et frappé.
Oui, c'est même l'imagerie d'Épinal, je dirais, du mouvement saint-simonien. Ce sont ces 4 mois passés par Enfantin et l'équipe qui est avec lui, cette quarantaine. Celui qu'on citait, c'était Auguste Chevalier, d'ailleurs, le frère de Michel Chevalier, qui sera rien moins que secrétaire général de l'Élysée sous Napoléon III.
Après avoir ciré les chaussures.
Voilà. Et donc, là, effectivement, ça fait scandale dans Paris. C'est non seulement sur les femmes, mais ça a marqué aussi avec l'habit qu'on ferme par derrière pour symboliser la fraternité, la solidarité.
C'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre, voilà, pour boutonner son habit.
Absolument. Mais le ministère de l'Intérieur va faire un procès, va fermer d'abord Ménilmontant. Ménilmontant, ça dure 4 mois, d'avril à juillet 32. Ça va fermer, il va y avoir un procès. Ils vont descendre d'ailleurs de la colline de Ménilmontant jusqu'à la cour d'assises en chantant, en procession, etc. Et ils vont être au moins les deux leaders, c'est-à-dire Enfantin et Chevalier, vont être enfermés à la prison de Sainte-Pélagie, où ils vont rester pendant une année. Et ils vont se séparer à ce moment-là, en 33. L'un va partir vers l'Orient, Enfantin, vers l'Égypte. Et puis Michel Chevalier va partir vers les États-Unis, mais avec la même idée en tête, sous deux formes différentes, réaliser ou étudier des grands réseaux de communication.
Alors on va en venir à ce point tout à fait essentiel, mais suivant le groupe des amis d'Enfantin et laissant de côté un instant Michel Chevalier, avant d'être libéré de Sainte-Pélagie et de se rendre en Égypte, Enfantin a été précédé à Constantinople par les compagnons de la femme, ses amis qui pensaient trouver, toujours l'union Orient-Occident, une femme, la mère Enfantin, pour le père Enfantin, si loin.
L'Occident n'a pas compris ma parole. L'Orient, lui, la comprendra. C'est en Orient que nous rédigerons le livre nouveau, après la Bible et le Coran. C'est en Orient que nous trouverons la femme Messie. J'ai, du fond de ma prison, entendu l'Orient s'éveiller.
Je le savais, père. Je l'avais pressenti. J'ai annoncé que l'année 1833 serait l'année de la mer. J'ai fondé l'association qui groupera nos futurs pèlerins. Elle se nomme les Compagnons de la Femme. De Paris et de Lyon, d'ailleurs encore, plusieurs dizaines de nos amis attendent mon signal de départ. Dites un mot, et ils s'en iront vers Constantinople.
La musique est de Félicia David, qui était Saint-Simon.
De l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Une émission qui n'a jamais mieux mérité son nom. Nous sommes en partance avec les Saint-Simoniens, en compagnie d'un guide, Pierre Musso, qui s'intéresse à Saint-Simon depuis les années 1980, qui a publié aussi bien Que sais-je sur Saint-Simon et le Saint-Simonisme que récemment un vaste volume de réflexion chez Fayard sur la religion industrielle. Oui, parce qu'il faut parler de religion industrielle. Il faut aussi parler à propos des Saint-Simoniens. Michel Chevalier part aux États-Unis. Enfantin va partir en Égypte, d'une nouvelle tapisserie géopolitique que les uns et les autres tissent.
Oui, tout à fait. Alors, sur les compagnons, d'abord de la femme, c'est Barrault, qui est un des leaders, Émile Barrault, qui regroupe les compagnons de la femme pour partir en Orient. Et il va partir avant Enfantin, en mars. Petit scoop, à la barre du bateau qui les amène de Marseille à Constantinople, il y a un célèbre homme politique qui s'appelle Garibaldi et qui va garder le nouveau christianisme toute sa vie à ses côtés. Alors, oui, il y a une modification de la géopolitique, c'est à l'idée de réseau territorial, c'est à de réseaux qui modifient le rapport à l'espace et au temps, c'est une idée qui vient du monde des ingénieurs et qui émerge déjà sous Saint-Simon, donc entre 1800 et 1820, et qui, dont vont s'emparer les Saint-Simoniens, qui sont pour beaucoup, je l'ai dit, polytechniciens ou ingénieurs des mines, ingénieurs civils en général, et donc on va aménager, on va même féconder la terre, c'est l'idée du canal de Suez, on va féconder la terre, c'est-à-dire encercler le territoire avec ses réseaux. Pourquoi ? Eh bien parce que le réseau est le symbole, c'est pas simplement un aménagement, c'est un symbole. Je vous cite juste une phrase de Émile Barraud. Quel spectacle touchant présentera l'humanité lorsqu'au bord de la Méditerranée où la civilisation s'est développée par le choc de tant de flottes et la lutte de tant de cités rivales réfléchies dans ces ondes, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, comme au bord d'une coupe immense et magnifique où elles n'ont communié qu'en la rougissant de leur sang, désormais se tendant les bras amis, communieront pacifiquement entre elles et offriront dans cet accord sublime le symbole de l'association universelle que nous voulons fonder. C'est-à-dire que non seulement ça permet la circulation et la communication, mais ça permet surtout la communion humaine à travers l'association universelle. Le réseau, c'est aussi un symbole. C'est à la fois une technique et un symbole.
Michel Chevalier, puisque vous l'avez cité plusieurs fois, même s'il part aux États-Unis, lui, il avait écrit dans le Globe, le journal saint-simonien, dès 1832, le système de la Méditerranée. Qu'est-ce à dire, le système de la Méditerranée ?
Alors, le système de la Méditerranée, il écrit ça début 32, donc avant la retraite de Ménilmontant, d'Enfantin. C'est une série de 4 articles dans lesquels il s'agit de réunir l'Orient et l'Occident. Et je vous cite là encore, excusez-moi, c'est très court, c'est Chevalier dans le texte que vous évoquez. « La Méditerranée a été une arène, un champ clos, où durant 30 siècles, l'Orient et l'Occident se sont livrés des batailles. Désormais, la Méditerranée doit être comme un vaste forum sur tous les points duquel communieront les peuples jusqu'ici divisés. La Méditerranée va devenir le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident. »
Avec donc ses golfes et ses embouchures. Et puis, un endroit passionne les Saint-Simoniens, c'est là que se fixe Enfantin en 1834 jusqu'en 1837, c'est l'Égypte. Il rencontre le Khédive, Mehmet Ali. Je crois d'ailleurs que le jeune consul de France de l'époque, Ferdinand de Lesseps, a joué parfois à l'intermédiaire. Et il veut promouvoir l'idée d'un canal qui, par l'isthme de Suez, relierait l'Orient et l'Occident, la mer Rouge et la Méditerranée.
Écoutez, Enfantin.
C'est à nous de faire, entre l'antique Égypte et la vieille Judée, une des deux nouvelles routes d'Europe vers l'Inde et la Chine. Plus tard, nous percerons aussi Panama. Nous poserons donc un pied sur le Nil, l'autre sur Jérusalem. Notre main droite s'étendra sur la Mecque, notre bras gauche couvrira Rome et s'appuiera encore sur Paris. Suez est le centre de notre vie de travail. Là, nous ferons l'acte que le monde attend pour confesser que nous sommes mal.
Il n'était pas un peu fou.
Le canal de Suez commence dans l'eau. Il est ouvert à travers un lac. Puis bientôt commence, généralement à la tombée de la nuit, la lente traversée d'une tranchée avec des balises vertes et rouges. De temps en temps, une gare. Il y a 12 gares. Puis, on entre, devant Ismaïlia illuminé, dans le lac Timsa. On passe dans les lacs amers. Et au petit matin, le passager se trouve, brusquement, dans un autre paysage, celui de la mer Rouge, à Suez.
Ça, c'est le canal achevé tel qu'il sera inauguré en 1869, après que Lesseps aura pris de vitesse Enfantin, qui, même après un premier échec, en 34-37, a remis sur le métier le canal de Suez, relancé une société d'études. Il y tenait vraiment mordicus.
Oui, bien sûr, parce que c'est le symbole dont je parlais. Il va en 33. Et il va en Égypte, donc il débarque à Alexandrie. Il va charger deux ingénieurs très proches de lui, Henri Fournel notamment, et puis Charles Lambert. Et Fournel va proposer, il connaît bien le Pacha Mehmet Ali, il va lui proposer ce projet de canal. C'est pas une idée tout à fait neuve, hein, l'idée de canal est ancienne. Et puis je dirais que l'expédition du directoire, avec Bonaparte, a réactivé beaucoup de mythologie ou de mythes sur l'Égypte. Mais le Pacha, Mehmet Ali, refuse le projet parce qu'il veut, lui, construire un barrage pour les irrigations et puis une ligne de chemin de fer. Et donc Fournel, dépité, va quitter tout de suite, dès 1934, l'Égypte, Enfantin, de son côté, y reste, comme vous l'avez indiqué, jusqu'en 1937. Et cette idée, il revient en France, mais cette idée de canal de Suez va le tourmenter, puisqu'en 1946, il lance la société d'études dans laquelle il va travailler avec des ingénieurs anglais, français et allemands. Et il va continuer à travailler avec Ferdinand Lesseps, qui lui est un diplomate. Et qui va, lui, parce qu'il est ami du fils de Mehmet Ali, c'est-à-dire Saïd Pacha, il va obtenir la concession en 1954. Et finalement, c'est de Lesseps qui va réaliser cette grande œuvre.
Vous parliez de chemin de fer, c'était un projet pour Suez d'Enfantin. Dans les réseaux matériels qui passionnent les Saint-Simoniens, il y a le chemin de fer, la route à ornières de fer.
Ah, bien sûr, le chemin de fer traverse l'histoire du mouvement saint-simonien quasiment des années 30 aux années 70 et notamment dans la période 45-47 parce que il y a plusieurs grands acteurs. Il y a les frères Perrère, bien sûr, qui financent et puis il y a la ligne Paris-Saint-Germain qui est très importante, puis la ligne Versailles, ça c'est en 35-37. Et puis Enfantin va devenir un des grands administrateurs de la compagnie et directeur du PLM Paris-Lyon-Marseille. À l'époque, il y avait plusieurs sociétés et il va les regrouper. Et donc, avec l'appui d'Arlès Dufour, un autre Lyonnais, parce que Enfantin a toujours cette idée de la circulation. Je vous cite, hein, Enfantin à la fin de sa vie, 58, « Nous avons enlacé le globe de nos réseaux de chemins de fer, d'or, d'argent, d'électricité, répandés, propagés par ces nouvelles voies dont vous êtes en partie les créateurs et les maîtres, l'esprit de Dieu, l'éducation du genre humain. »
Il faut que roule l'or aussi, il faut que roule l'argent, il faut que roule le crédit. Alors vous insistez sur les réseaux immatériels dans la pensée saint-simonienne.
Oui, tout à fait, parce que déjà dans le projet d'ailleurs de Chevalier de 32, il y avait des réseaux matériels, c'est-à-dire des chemins de fer et des voies de navigation, mais il y avait aussi des réseaux immatériels. Ces réseaux immatériels, c'est les réseaux de pensée, de formation, et les saint-simoniens vont être très actifs dans ce domaine, pas simplement au début de leur école, ce sont les réseaux de financement. Par exemple, les Perrère, qui créent le crédit immobilier, vont financer notamment les grandes compagnies de chemin de fer. Et un des derniers projets d'Enfantin est un crédit intellectuel. Donc, on voit
crédit
bien...
intellectuel, c'est-à-dire de trouver de l'argent pour aider les études des étudiants?
Absolument. Pas seulement des étudiants pour promouvoir la pensée.
Des instituts d'études avancées, comme celui de Nantes, où vous travaillez.
Ah oui, qui est un
c'est
paradis.
C'est une idée saint-simonienne.
Qui est un paradis intellectuel. Je ne sais pas si c'est une idée saint-simonienne parce que c'est venu de Princeton. Alors ça, peut-être par un détour grâce à Michel Chevalier.
Et juste un mot, parce que la polémique bat son plein sur le rapport entre le macronisme et le saint-simonisme. Nous nous étions promis de ne pas aborder la question, mais une tribune de Libération a été consacrée au sujet vendredi dernier. Pour vous, c'est pas par Princeton qu'est arrivé le saint-simonisme à l'esprit du président de la République, c'est par Lyon et par Gérard Collomb?
Alors, je pense certainement que Gérard Collomb, compte tenu de l'histoire lyonnaise et de la présence saint-simonienne à Lyon à différents moments, est extrêmement importante. Mais je pense qu'il y a plusieurs canaux. Il y a des canaux liés au monde politique et puis des canaux liés au grand corps technique. Alors moi, je ne fais pas l'assimilation parce qu'il y a de l'anachronisme entre le saint-simonisme du 19e et puis Macron aujourd'hui. Mais ceci dit, il y a plusieurs éléments qui montrent que le rapprochement est intéressant. Quand le président Macron parle de start-up nation, on voit bien que c'est une reformulation de cette idée saint-simonienne. La nation est comme une manufacture et la vérité du politique, c'est la science de la production, c'est-à-dire l'économie politique.
Merci à vous, la religion industrielle, c'est une réflexion sur le saint-simonisme et bien au-delà, chez Fayard, les offres complètes de Saint-Simon, le que sais-je, signé Pierre Musso.